Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Immo, Radio Territoria, pour vous faire vivre cette troisième édition du salon CIPCA, salon de l'immobilier du bas carbone, ici au Carrousel du Louvre, où nous allons recevoir toute cette journée, et puis les deux autres d'ailleurs, de nombreux invités. Et on commence avec Maxime Michaud, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le directeur de JL Ingénierie France, bienvenue à vous. Merci,
merci de me recevoir.
De répondre à nos questions. En plus, vous êtes pas mal en voyage, vous faites le plaisir d'être présent ici, donc merci, merci à vous. Conception fluide, audit, conseil et aide à la maîtrise d'ouvrage, smart building, performance environnementale, est-ce qu'on peut présenter rapidement JL Ingénierie France ?
Alors JLN Ingénierie France est une équipe d'une cinquantaine de personnes avec des métiers d'AMO technique, comme vous l'avez dit, de conception technique sur les lots fluides. Alors par fluide, qu'est-ce qu'on entend ?
Oui.
De la CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, du courant fort, du courant faible. Et donc l'ensemble de ces fluides aujourd'hui participent grandement à l'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. À côté de cela, un pôle environnemental, donc avec des experts qui sans cesse essayer de calculer, d'améliorer les performances, on va dire, des bâtiments et bien entendu le smart building dont on va parler ce matin.
Oui.
Et l'idée, c'est d'avoir vraiment des conceptions techniques, environnementales et digitales. C'est ça l'objectif de JLL Ingénierie, qui bien sûr inclut dans JLL, donc un groupe qui fait plus de 110 000 personnes dans le monde. Et donc on se veut un bureau d'études qui soit à la fois produit, usage, marché, et
oui,
qui apporte toujours cette compétence-là en se disant comment on part du marché, des ambitions du marché, de leurs besoins, pour justement avoir une conception technique qui, somme toute, s'approche de la perfection, si on peut dire.
Vous êtes présent sur tout le territoire français, donc évidemment.
Tout à fait, oui. On est présent à la fois sur Paris, sur Lyon, sur Lille, donc on sert énormément la dorsale,
oui,
mais on est capable d'aller partout en France.
Ok, et à l'international, donc vous le disiez aussi.
Et à l'international, donc JLL, 110 000 personnes, présent dans 90 pays.
Oui.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on va surtout parler de projets français,
oui,
mais comme vous le savez certainement, on est présent sur des métiers à la fois transactionnels, de projets, de contractants généraux avec notre filiale Tetris en France et en Europe, et sur ces métiers d'ingénierie que vous allez peut-être découvrir aujourd'hui.
Mathieu, en quoi finalement vous contribuez à la promotion des solutions bas carbone ?
Alors, pour nous, finalement, c'est dans notre ADN.
D'accord.
C'est-à-dire que ça fait maintenant un peu plus de 25 ans que chez JLL, on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on y a raccroché de l'ingénierie, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 80% de ce qu'on fait, on est dans de la rénovation. Et ça, depuis 5 ou 6 ans. Donc on a pris ce virage assez tôt, et donc aujourd'hui, être dans le bas carbone, quand on fait de la rénovation, c'est une obligation. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, on en reparlera certainement tout à l'heure, avec la RE 2020 qui nous oblige à calculer le carbone sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, quand on fait une rénovation, c'est d'autant plus prégnant. Et donc, chez JLL, on a à la fois formé nos collaborateurs à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a eu à la fois des séminaires pour les directeurs, on a des gens qui sont plutôt des champions, on va dire, des sujets. Et à côté de ça, l'ensemble des collaborateurs de JLL ont été formés à toutes les problématiques de développement durable. Donc on a appelé ça le Sustainability Pass, où finalement ils ont tous eu leur petit diplôme.
Ouais.
Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient dans l'ADN de chacun.
Alors vous êtes présent sur ce salon, vous êtes partenaire du salon, vous participez à deux tables rondes. Première question, comme ça qui s'impose peut-être, pourquoi c'est évidemment important pour vous d'être présent sur ce type d'événement ?
Alors comme je l'évoquais à l'instant, c'est-à-dire que comment on peut aujourd'hui se dire que dans notre ADN, on a vraiment cette logique de rénovation bas carbone sans être présent au CIPCA ? Là, c'est la troisième édition. Très clairement, aujourd'hui, c'est le grand rendez-vous, on va dire, des acteurs de l'immobilier au sens large. Et nous, ça nous permet à la fois, bien entendu, d'être visible, d'essayer de montrer quelles sont nos avancées, d'échanger avec les autres acteurs et de collecter finalement l'ensemble de la technologie, des bonnes idées et de voir comment demain on peut se croiser à nouveau et créer des synergies.
Dans tous vos projets que vous menez, comment est-ce que vous réussissez finalement à harmoniser d'un côté les aspects techniques, technologiques et environnementaux ?
Alors le plus important, c'est qu'il ne faut pas forcément harmoniser. C'est ça le sujet.
Okay.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment au départ se dire dans quel état de l'existant je me trouve, sur quel territoire, comment j'arrive finalement à faire de ce bâtiment un bâtiment qui est plus en interface, tout d'abord avec son environnement, pour avoir la meilleure conception technique, environnementale et digital. Si je ne regarde pas l'environnement du bâtiment, je ne peux pas le faire. Si je ne regarde pas finalement les qualités et les contraintes du bâtiment, notamment des contraintes morphologiques ou des contraintes constructives, c'est impossible. Une fois qu'on s'est dit ça, ben finalement, on se met tous autour de la table et on se dit, on part finalement de pas mal de calculs, donc je ne vais pas aller dans le détail, mais on parle de beaucoup de simulations et de calculs pour se dire comment ce bâtiment peut répondre à la fois aux nouvelles réglementations, comment on peut aller au-delà, comment on peut le porter vers 2040-2050. Et ça, c'est au niveau de la technique, au niveau de l'environnemental et du digital, parce que moi, je suis persuadé que le digital aujourd'hui peut servir la performance environnementale du bâtiment.
Quelle définition on donnerait au low-tech dans le cadre de l'immobilier durable?
Alors, le low-tech, on en parle beaucoup.
Oui.
Moi, je pense qu'il faut déjà qu'on parte finalement des fondamentaux. En disant, si on veut faire du low-tech, il faut qu'on parte réellement de quelle est la technologie présente dans le bâtiment que l'on va rénover. Okay. C'est souvent là-dessus que l'on part. Donc, ça part par un vrai audit de l'existant. Tout d'abord, en se disant, tout n'est peut-être pas à jeter. Donc, il y a peut-être des productions à reprendre, il y a peut-être des distributions dans le bâtiment de différents fluides qu'il faudra reprendre. Et ça, c'est quelque chose de très important et ça commence là-dessus. Et derrière, bien entendu, on va ajouter des technologies, on va ajouter de la technique. Il faut se poser plusieurs questions. Un, comment on a de la technique et de la technologie qui est durable, tout bêtement.
Ah oui, c'est le vrai
parce
sujet.
Qu'on sait qu'aujourd'hui, forcément, il y a des technologies qui ont été mises en place et au bout de 2-3 ans,
deviennent obsolètes.
Exactement. Donc, comment ça devient durable et surtout, comment on peut les maintenir facilement? C'est-à-dire qu'il faut que demain, les équipes de maintenance, on appelle les équipes d'exploitation ou les property managers, se disent « Ok, j'ai une bonne compréhension du système, je vais savoir le faire fonctionner et je vais savoir l'optimiser dans le temps. » Et à mon avis, ça en passe par là.
Est-ce que vous pouvez, histoire qu'on se projette, nous donner des exemples concrets de projets low-tech qui ont été menés par JL Ingénierie?
Bien entendu, alors il y en aurait...
Évidemment, tout un catalogue, on ne va pas faire un inventaire à la Prévert, mais si on devait comme ça en citer un, deux qui vous parlent, qui viennent tout de suite comme ça.
Il y aurait un bon catalogue, mais je vais citer justement ce qu'on fait beaucoup de bureaux, donc je vais me permettre de citer un bâtiment à côté, un bâtiment logistique, par exemple.
Okay.
Donc on a été amené sur une base qui fait 22 000 m² dans le 77, et avoir une réflexion globale, en se disant aujourd'hui, bien entendu, avec la réglementation, on parle du décret BACS, on était obligé de mettre en place une GTB, donc une gestion technique du bâtiment.
Ouais.
Mais au-delà de ça, on disait comment on peut l'améliorer au niveau environnemental. Donc c'est passé par quoi? C'est passé par une réflexion assez profonde avec un partenaire sur la mise en place de géothermie.
Okay.
Et donc nous, il a fallu que là-dessus, donc ces géothermies, forcément, on est quand même de la technologie low-tech, on est dans une technologie qui est très durable.
Ouais.
Et là-dessus, on a mis en place ce qu'on appelle une pompe à chaleur haute température. Donc pourquoi nous avons fait ça? Parce que ça permet d'avoir le même régime de température, somme toute, que la chaudière gaz qui était en place. Donc comme ça, vous n'avez pas à changer les distributions, vous n'avez pas à changer les terminaux qui étaient des aérothermes au gaz. Parce que si vous voulez, l'eau qui circule, pour expliquer à des non-sachants, reste à la même température que l'eau qui était précédemment chauffée par cette chaudière gaz. Donc ça, c'est une vraie réussite.
Ouais, top.
C'est-à-dire, en prenant de la géothermie, en partant d'une production qui est différente, on garde la distribution, on garde les terminaux. Et ça, je trouve que c'est un bel exemple.
Comment est-ce qu'on réussit finalement à concilier à chaque fois low-tech et innovation? D'ailleurs, est-ce que c'est un objectif d'ailleurs?
Je pense que le low-tech, ça n'empêche pas l'innovation.
Ouais.
C'est justement parce que low-tech, on va avoir le droit finalement à peu de solutions, mais des solutions pertinentes, qu'il va falloir les choisir avec à la fois parcimonie, mais en se disant comment elle peut être vraiment, vraiment efficiente pour demain, pour le bâtiment. Et là, qu'est-ce qu'il faut regarder dans l'innovation? Il y a à la fois l'innovation pour le bâtiment, en se disant, bon, ben, j'ai besoin d'un bâtiment qui, de toute façon, répond à la réglementation environnementale et demain est capable de s'améliorer dans le temps. Mais au-delà de ça, comment j'ai un bâtiment qui interface au mieux avec les futurs usages? Et c'est ça la question qu'il faut se poser par rapport à l'innovation. Et la plupart du temps, moi, ce n'est pas forcément une innovation immédiate. Je pense qu'il faut qu'on essaye de privilégier les innovations à venir.
Okay.
En disant, par exemple, demain, sur une GTB, est-ce qu'on ne met pas des mesures conservatoires permettant demain vont arriver dans le temps, qui seront nécessaires peut-être dans 5-10 ans, dont aujourd'hui on n'est pas forcément informé. Et donc c'est ça pour moi la véritable innovation. C'est de se dire comment on met le socle pour que demain les innovations puissent améliorer l'ensemble.
Et quelles sont les perspectives d'évolution finalement de cette approche low-tech?
Alors, Des perspectives d'innovation, je dirais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. On est au tout début du sujet.
Ouais.
Je pense que tout d'abord, il faut se dire comment on fait évoluer les enveloppes. Je pense qu'il faut qu'on parte du début. En se disant, on a une enveloppe de bâtiment. Comment on fait interface au mieux le bâtiment par rapport à son environnement, je vous le disais tout à l'heure. Donc ça peut très bien être des façades respirantes, donc des façades qui sont dynamiques avec de la ventilation naturelle. Vous voyez, on le voit quand même encore assez peu, mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Comment on a plus de toitures végétalisées, c'est important aussi si on est sur les enveloppes. Si on va encore plus loin, le sujet va être comment vous arrivez demain à avoir des systèmes techniques qui sont les plus performants au niveau environnemental et quelquefois qui vont permettre, comme de la géothermie, sur sonde ou sur nappe, et comment on va pouvoir stocker de l'énergie selon les saisons et la réutiliser à la bonne saison. Donc il y a tous ces systèmes-là. Et pour en finir là-dessus, vous avez également tout ce qui va être finalement le digital, donc à la bonne mesure. Mais il va falloir que, si vous voulez, qu'on arrive à la fois à ce que l'ensemble de la chaîne de l'immobilier et connaissance de ceci. C'est-à-dire que nous, en tant que concepteurs, les property managers, les facility managers, ceux qui exploitent, et finalement l'utilisateur final, en se disant qu'on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Et si vraiment on veut que demain, ce soit un succès, il faut que chacun se l'approprie et sache utiliser les technologies à bon escient.
Et c'est ce qui explique aussi les raisons, finalement, de cette approche low-tech que vous avez adoptée.
C'est l'une des raisons, et il y a aussi une raison qui est fondamentale, il faut en parler, c'est une raison de marché.
Ouais.
Il y a une raison de marché. Tout d'abord, la raison réglementaire, je vous en parlais tout à l'heure, avec la RE 2020, avec le bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Donc là, on est bien obligé d'en passer par là et
évidemment
faire tous nos calculs.
Ouais.
Je pense qu'il y a également une prise de conscience environnementale qui est très importante. Ouais. Et finalement, la plus grosse prise de conscience pour moi, là, du marché des acteurs qu'on voit aujourd'hui devant nous, c'est la prise de conscience des utilisateurs. Donc la fameuse génération Y ou demain Z. Il faut savoir que la génération Y et Z, ça sera 75% des collaborateurs en 2030 dans une entreprise. Donc il y a ce besoin-là.
Ce ne sera plus un sujet pour eux, ça.
Ce ne sera plus un sujet. Et donc, si vous voulez, je pense qu'on est obligé d'aller là-dessus. Et puis après, la dernière raison, mais je voulais venir en dernier, c'est plutôt le financier. C'est-à-dire que, vous le savez, le marché aujourd'hui est contrarié. Donc il faut optimiser les coûts. Il faut trouver des bonnes solutions.
Et c'est une façon de le faire.
Et c'est une façon de le faire, et ça j'en suis persuadé. Et à la fois finalement dans les capex qu'on va mettre en place pendant la construction, mais aussi dans l'après, comment on optimise les coûts d'exploitation et les énergies. C'est ce qui est important dans une logique de coût complet du bâtiment.
Qui sont vos clients aujourd'hui en fait ?
Alors finalement, toujours deux grands types de clients.
Ouais.
Vous avez des clients qui sont des investisseurs, propriétaires, dont l'immobilier est un métier, donc qui possèdent énormément de bâtiments dans différentes typologies d'actifs, parce que nous on agit sur toutes les typologies d'actifs. C'est du bureau, c'est de la logistique, c'est de l'activité, c'est de l'hôtellerie.
Ouais.
Et de l'autre côté, donc des clients qui sont des clients entreprises, donc qui nous demandent, si vous voulez, des fois des missions qui sont tout aussi épaisses parce qu'elles sont propriétaires de leur bâtiment, ou alors elles vont être locataires. Et comme vous le savez, par exemple, le décret tertiaire, c'est à la fois propriétaire et locataire. Hein, l'objectif de diminuer les consommations d'énergie incombe aux deux. Donc, elles vont venir nous voir en nous disant bah, comment je fais avec cela, comment j'optimise mon bâtiment, comment j'optimise cette vie du bâtiment et comment je me mets dans une démarche d'amélioration continue avec mon bailleur. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est en train de changer complètement la perspective et le lien qu'il n'y avait pas encore entre nos deux typologies de clients. Aujourd'hui, il se renforce de manière très forte.
Il y a des convergences qui sont évidentes.
Par ces objectifs environnementaux.
Par ces objectifs, oui. Et alors évidemment, le low-tech est une réponse à cela, mais comment est-ce qu'on arrive à concilier à la fois rentabilité financière, vous en avez parlé, des projets immobiliers, avec transition écologique ?
Alors, je pense qu'on est en train de faire évoluer un petit peu notre manière de voir les choses.
Ouais.
Il y a, moi, j'ai commencé dans la finance.
Ok.
Peut-être pas le dire hein, quand bah on est ingénieur.
C'est pas un gros mot.
Mais si vous voulez, il y a de ça 20 ans en arrière, on avait une vision assez statique. Même si c'était du cash flow, des TRI, d'une héroïde d'une opération. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se pose la question dans le temps. Ok, j'achète aujourd'hui un bâtiment, je tiens mes cash flows avec finalement la capacité à le louer rapidement, etc. Mais qu'est-ce que ce bâtiment, comment se situe-t-il par rapport aux autres ? Comment je vais devoir l'améliorer au niveau environnemental ? Quelles réglementations vont me tomber dessus ? Donc c'est ça finalement le sujet. comment je vais l'améliorer dans le temps. Et quand on met tout ça dans un cash flow, on a une vision qui est beaucoup plus dynamique. Et je pense que la perspective environnementale aujourd'hui doit être remise dans chacun des cash flows. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a vraiment une appétence des utilisateurs pour les bâtiments, qui sont des bâtiments, je mets des guillemets, environnementaux. Les 100 plus grands utilisateurs à Paris, 80% d'entre eux sont dans des bâtiments qui sont labellisés ou certifiés. Et donc ça, ça crée pour moi de la valeur qu'on appelle souvent de la valeur verte. Donc ça, il faut le valoriser aussi au niveau financier.
Et vous aidez d'ailleurs justement vos clients à obtenir ces labellisations, ces certifications ?
Bien sûr, alors c'est une grosse partie de notre métier.
Ouais.
D'aller chercher des labellisations, des certifications. On peut parler de HQE, de BREEAM, de LEED, etc. Bien entendu, on est à la manette tous les matins. L'objectif, ce n'est pas ça, c'est de se dire, OK, on va aller le chercher avec vous, mais comment on conçoit la meilleure solution. Parce que souvent, il y a beaucoup de certifications, ou même c'est très intéressant, il ne faut pas qu'on devienne des analystes et qu'on compte finalement des points. C'est de se dire comment on peut apporter la meilleure valeur ajoutée.
Un grand merci à vous, Maxime Michaud.
Merci
à
vous.
Une dernière petite question, peut-être finalement, puisque vous êtes là toute la journée, qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cette journée sur le salon ?
Alors, comme beaucoup, je pense que je vais me rendre à 3 ou 4 conférences, sont déjà prévues, dont les nôtres, je ne peux pas passer outre. Mais je pense que, comme beaucoup de salons, c'est plutôt les rencontres que je vais faire au détour d'un couloir qui vont beaucoup me satisfaire et puis m'emmener peut-être vers autre chose.
Eh ben, qui sait ? Bonne rencontre, en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci bonne Maxime journée. Michaud d'avoir répondu gentiment à nos questions. Et nous, on continue à vous faire vivre donc le salon CIPCA jusqu'à ce mercredi, ici au Carrousel du Louvre, sur l'antenne de Radio Immo et Radio Territoria. Cette émission est également disponible en replay, en podcast. Merci et à très vite.
Merci à vous.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.